Bon, ben, une autre pas pire journée dans le monde du sport. Une belle soirée qui s'en vient d'ailleurs. Pour mettre la table, je retrouve mon collègue Jérémy Filosa. Salut, Philo.
Salut.
Un mot sur le dossier des Alouettes pour commencer. Il y a une réplique cinglante aujourd'hui de M. Guzzo.
Ouais, ben, justement, je lui parlais ce matin. Puis là, à un moment donné, il me dit garde, j'aimerais ça que tu fasses une sortie pour moi. Voici ce que j'ai à dire. Et donc, il se retire officiellement du processus d'achat des Alouettes. Là, on sait que sa candidature avait été quand même rejetée la semaine dernière. Mais bon, on lui avait dit, regarde, on va te garder la porte ouverte avant de vendre officiellement l'équipe. On va t'avertir avant. Mais là, écoute, clairement, il n'est pas satisfait du processus. Il m'a dit, entre guillemets, que c'était à cause du magouillage dans son dos fait par le commissaire de la Ligue canadienne, Randy Ambrosie, qui se retirait de ce processus.
Les couteaux volent bas?
Ah non, non, écoute, il est vraiment pas de bonne humeur, qu'on le forçait à faire des choses, à travailler avec des gens que lui n'avait pas nécessairement une affinité ou ne voyait pas les choses de la même façon. Et finalement, il a dit, ben je me retire de ce processus biaisé. Et dans le fond, ce qu'il voulait dire, là, c'est que lui a vraiment le sentiment que Randy Ambrosie s'est servi de lui et des autres groupes aussi, des autres groupes québécois qui récemment ont été écartés du processus pour se donner bonne bouche, pour dire, ben regarde, on a approché des propriétaires potentiellement québécois, mais ça n'a pas marché. T'sais. On avait des Québécois dans notre mire, mais ça n'a pas fonctionné. Donc lui, il a vraiment le sentiment qu'on s'est servi de lui pour pas faire augmenter les enchères, parce qu'il n'y a pas d'enchères à faire augmenter, mais pour se donner belle figure.
Oui, pour l'image de la Ligue. Là.
Exactement.
Parce qu'on
exactement.
Le sait que l'objectif, effectivement, c'était que l'équipe soit dirigée par des propriétaires francophones, plus proches de la communauté, ce qu'on sentait pas depuis des années maintenant. Là, on n'est plus sûr de rien. Là.
Écoute, quand j'ai posé la question à Randy Ambrosie cette semaine, j'ai dit, est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'équipe va être vendue à des intérêts québécois francophones? Et il m'a dit, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que dans tout le processus, tous les groupes qu'on a rencontrés avaient une connexion avec le Québec. Ça veut dire quoi, c'est une connexion? Ça veut-tu dire que tu as étudié ici, puis après ça, tu es reparti chez vous?
J'ai déjà eu une blonde à Montréal, moi.
Bon, exactement. Est-ce que ça compte? Si tu arrives au commissaire et tu dis, « Hey, moi, là, je suis sorti avec une fille de Québec à un moment donné ou de Montréal, là, fait que regarde, j'ai un lien avec le Québec, je revenais les week-ends ou je sais pas trop. » Tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que quand Guzzo me dit ça, ben ça me fait penser à cette réflexion-là ou à ce commentaire-là du commissaire. Puis j'ai comme un peu peur qu'on nous annonce quelque chose que finalement, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Québec. Peut-être a étudié, je sais pas moi, à McGill ou quoi que ce soit, mais que finalement, c'est pas un Québécois où il parle pas français, où il baragouine à peine. Donc, peut-être que lui s'est rendu compte de c'est qui cette personne-là, puis il a mis 2+2, il a fait 2+2, puis il s'est dit, gay, on rit de moi là-dedans. Ouais. Là. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait cette sortie-là aujourd'hui.
OK, bien, on verra évidemment qui va être propriétaire, puis qui, le nouveau propriétaire, mettons que c'est un Américain unilingue anglophone, mais qui a déjà visité Montréal, bien, il s'entoure de qui? Alors,
ben, c'est ça.
Après ça, on pourra évaluer la décision de la Ligue.
Voilà.
Mais j'avoue que présentement, ça regarde un petit peu moins bien que ça regardait il y a quelques semaines. Bon, finale de la NBA, les Raptors qui tenteront de reprendre les commandes de la série ce soir, mais ça s'annonce pas facile. Là. Les Warriors sont pas loin d'être imbattables à la maison, Philo.
Oui, exactement. Sauf que, tu sais, encore ce soir, là, Durant et Thompson. Le Thompson, c'est confirmé, ne jouera pas. Donc, c'est deux gros morceaux pour les Warriors qui ne sont pas là. Donc, ils sont, disons, amoindris, les Warriors de Golden State, une équipe qu'on disait imbattable à domicile. Mais là, il y a clairement une faiblesse, il y a clairement une opportunité pour les Raptors. Et les Raptors, dès ce soir, doivent faire un statement. S'ils ne gagnent pas ce soir, ils doivent au moins compétitionner jusqu'à la dernière seconde pour battre cette équipe-là, pour se faire à croire qu'ils sont capables de battre les Warriors chez eux. Mmh. C'est sûr que ce soir, une victoire, ce serait extraordinaire. Mais si tu perds ce soir, mais tu compétitionnes...
Faut pas que ce soit une dégelée.
Exactement. Faut pas que ce soit une dégelée. Faut que les gars sortent de là en disant, écoute, on est passé tout près de les battre. On est capable de les battre dans le match numéro 4. Puis si ben, tu gagnais le match numéro 4 au lieu du match numéro 3, peu importe, c'est pas grave. Faut que tu ailles en chercher une là-bas, mais il faut au moins que ce soir, tu te fasses pas défoncer. Parce que là, ça pourrait miner les troupes. Parce que là, ils vont se dire, hey, ils sont sans Thompson, ils sont sans Kevin Durant, puis on n'est même pas capable d'aller les battre chez eux. C'est vrai ce que tout le monde disait, ils sont imbattables chez eux. Hier, j'ai regardé un Insta story des Warriors où on montrait à la rapidité avancée 21 paniers consécutifs de Steph Curry réussi de la ligne de 3 points à l'entraînement. Donc, c'était genre, on est prêt pour vous autres, les Raptors, ou quelque chose comme ça. Donc, chez eux, ils ont une réputation d'une équipe très, très, très difficile à battre. Donc, ça va être extrêmement intéressant ce soir.
OK, il y a du soccer aussi sur nos ondes. Oui. Philo, ce soir, l'Impact qui reçoit les Sounders de Seattle.
Oui, puis bon, merci quand même au Fury d'Ottawa qui ont prêté un joueur, Luca Ricci, à l'Impact de Montréal. C'est un ancien de l'Académie de l'Impact, donc on le connaissait à Montréal. Et le Fury a été assez gentil pour le prêter pour ce match-là parce que, comme je l'ai mentionné au début de la semaine, l'Impact n'a pas assez de joueurs pour remplir un alignement complet ce soir-là. Puis Seattle, c'est la même chose. Je pense que ça va être genre du 15 contre 14, là, quelque chose comme ça. C'est même pas impossible que l'Impact ce soir abaye 3 gardiens, puis si à un moment donné ils sont mal pris, il y en a peut-être un qui va embarquer puis qui va jouer.
Ça me fait penser quand je jouais U17, mettons, là, puis les gars commençaient à travailler, puis c'était compliqué des fois d'avoir toute l'équipe.
toute l'équipe, c'est ça. Puis là, tu te débrouilles comme tu peux. Mais ça va être ça. Les Sounders, ce soir, arrivent à Montréal sans un seul défenseur central dans l'alignement. Puis on sait que dans une équipe, ça en prend minimum 2, là, à moins de jouer un genre de 5-3-2 ou quelque chose de même, ou un 3-5-2 où tu utilises juste un défenseur central. C'est pas impossible. Mais écoute, normalement, ça t'en prend au moins 2.
Ouais. Hein? Ben, au moins, l'Impact n'a pas d'excuses. Là, peut pas, t'sais, l'autre club aussi était moins 2.
Exact. Ah oui, mais tu sais, ce soir, c'est le seul match dans la MLS, Seattle-Montréal. Mais tu sais, ça n'a pas de bon sens qu'une fois que la fenêtre est ouverte, les joueurs, la majorité des joueurs ont quitté lundi pour leur équipe nationale. La Gold Cup débute bientôt. C'est pas normal que la MLS permette à des équipes de jouer durant la pause. Tu sais, c'est comme si au hockey, quand les équipes quittent pour aller aux Olympiques, ben il y a des clubs de la Ligue qui disent oh, nous autres, on va continuer pareil, on va jouer pareil, même s'il nous manque des joueurs. Tu sais, ça n'a pas de bon sens.
C'est ridicule.
Mais c'est ça. C'est soit que tout le monde est en pause ou soit que tout le monde joue. Mais oui. Ça n'a pas de bon sens. C'est ridicule.
Oui. Ah, tout à fait. OK, puis la finale au hockey qui reprend demain soir pour le match numéro 5 à Boston. Et là, je peux pas croire que Chara va jouer demain soir, Philo.
Ben avec la mâchoire fracturée, ça va être très, très difficile. Puis au moment où on se parle, on n'a pas officialisé l'absence de Zdeno Chara. Je pense qu'on va peut-être attendre à demain. On verra. Mais, tu sais, imaginez-vous. Vous avez une mâchoire fracturée. Donc, ça veut dire que dès que vous bougez la bouche ou quoi que ce soit, ou même vous faites un pas, ça va résonner dans votre bouche. T'sais? Peu importe ce que vous faites, ça va résonner dans votre bouche parce qu'il y a une fracture. Là, on s'en va dans un match de hockey qui est premièrement extrêmement physique. Cette série-là est très physique. Zdeno Chara pourrait encaisser une mise en échec non loin de la tête ou près de la mâchoire ou sur une épaule qui pourrait endommager cette blessure-là et l'aggraver sérieusement. Donc, écoute, je ne sais pas si on va faire ce qu'on a fait avec Denis Savard. On va lui dire, regarde, habille-toi et reste en arrière du banc. Au moins, viens inspirer tes coéquipiers ou je ne sais pas trop. Mais je ne vois pas comment il va pouvoir jouer. Puis là, ben écoute, les chances des Bruins sont clairement amoindries parce qu'on commence, ça fait 2 défenseurs qui tombent au combat. Donc, on commence à manquer de ressources là, à ce niveau-là.
Oui, la porte est ouverte pour les Blues.
C'est ça.
On s'en reparle demain, évidemment. Merci beaucoup, Philo. On t'écoute tantôt au Soccer de l'Impact.
OK, parfait. Bye-bye.